et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Alexandre!
Salut!
Comment tu vas?
Écoute, ça va très bien et toi?
Ouais, super, merci beaucoup. Pas encore en vacances?
Non plus.
Toujours en poste.
Toujours là.
Bon, bah, en tout cas, trop contente de te recevoir sur le podcast parce que ça fait quelques temps que je spottais d'avoir la présence d'une personne de chez Back Market sur le podcast. Donc, c'est désormais chose faite. En effet, toi, tu travailles depuis plus de 2 ans et demi chez Back Market, la première place de marché qui est dédiée à la vente de produits électriques et électroniques reconditionnés. Et avant de commencer l'interview, Alexandre, peux-tu me dire quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Oui, bien sûr. Et déjà, je tenais à te remercier pour l'invitation, parce que c'est vrai que c'est un plaisir de participer à ce podcast. Du coup, je ne suis pas sûr qu'on t'ait déjà sorti ce plat, mais pour moi, c'est la loco poulet braisé. C'est un plat ivoirien qui est super bon. Je ne sais pas si tu connais, mais...
J'adore ce plat, et pour info, donc la loco, c'est des bananes plantains frites,
c'est exactement. Trop bon. Ouais, c'est super.
Ah là là, bon, et bah écoute, allons de l'avant, avant de mourir de faim sur place, là en train de réfléchir à des allocos. À présent, Alexandre, je te laisse sortir de l'anonymat.
Ok, donc moi c'est Alexandre, j'ai 27 ans et j'habite à Paris depuis maintenant un peu plus de 5 ans. De base, je suis nantais et je suis arrivé sur Paris avec mon premier poste. Donc, j'étais alternant chef de produit chez EDF pendant un an. Et suite à cette expérience, j'ai vraiment eu envie d'aller sur le terrain, de me développer et apprendre les techniques de vente. Du coup, j'ai rejoint ILTI en tant que business developer pendant un petit peu moins de 2 ans. J'ai finalement rejoint les équipes de Back Market en tant qu'account manager et je suis aujourd'hui key account manager toujours chez Back Market.
Trop cool.
Si j'en suis là aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Parce que déjà, lors de mon expérience chez EDF, j'ai pu développer ma capacité d'analyse, créer, suivre des KPIs. Ça m'a beaucoup plu, mais je n'avais pas vraiment contact avec les clients et c'est ce que j'ai voulu trouver en devenant biz dev. Du coup... c'était de la vente pure, très intéressant pour me développer parce que j'en avais jamais fait. Et ILTI, c'est vraiment une super école pour ça. Du coup, après moins de 2 ans, j'ai eu envie d'aller plus vers un poste qui allait allier l'ensemble de mes connaissances, donc c'est-à-dire de l'analyse, de la vente, mais j'avais aussi envie d'aller encore plus loin dans l'accompagnement du client. Et j'ai trouvé le poste parfait, je pense, pour ça chez Back Market, donc le poste de Key Account Manager. Et ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je m'éclate dans une boîte bien dynamique. Donc, j'aime beaucoup la relation que j'ai aujourd'hui avec mes clients, encore plus le projet Back Market et le métier qui m'est donné de faire. Donc, c'est un régal.
Et comment est-ce que tu es passé d'une entreprise comme ILTI à Back Market? Parce que ILTI, c'est quoi? C'est le secteur du bâtiment, c'est ça?
Exactement. Ouais, c'est une très grosse boîte dans le secteur du bâtiment qui propose des services, des logiciels et du matériel B2B. Donc, c'est vrai que c'est totalement différent, mais on s'y fait. Et je suis passé d'une boîte à l'autre, en fait, vraiment en me disant que j'avais envie de découvrir autre chose, de voir aussi l'environnement startup que je n'avais jamais fait. Et comme je disais tout à l'heure, d'allier un petit peu toutes les compétences que j'avais acquises. Et voilà comment je me suis retrouvé donc chez Back Market, qui était une boîte qui m'attirait énormément.
Tu m'étonnes, hein, c'est une entreprise canon. Et quand tu parlais tout à l'heure du projet Back Market, je suis totalement en phase. Et justement, j'ai envie que tu nous expliques comment est-ce que tu vas insuffler ce projet de toute la partie seconde main, reconditionnement, plus largement peut-être développement durable dans ton métier au quotidien. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer véritablement en quoi consiste le poste de Key Account Manager chez Back Market?
Alors, le métier de Key Account Manager chez Back Market, il est très riche puisque l'idée, c'est de développer au maximum le partenariat avec un client déjà existant. Donc, chez nous, il n'y a pas de prospection en tant que Key Account Manager. Il y a des équipes New Business qui vont se charger de recruter de nouveaux vendeurs. Et au bout de la période d'onboarding, ils vont arriver chez les account managers et key account managers. Et notre rôle, ça va être de développer au maximum le client. Donc, je dirais que le métier se base sur trois piliers. On va avoir le support, la proactivité et le projet.
Tu peux nous les détailler, ces trois piliers ?
Bien sûr. Donc, en fait, dans une journée, on va dire qu'on va recevoir beaucoup de sollicitations des différents clients, que ce soit sur leur vie sur la plateforme, que ce soit des questions pricing, des questions plus sur peut-être la stratégie ou l'environnement du reconditionné. Donc, pour ça, on va vraiment être là en support. On va leur apporter les réponses dont ils ont besoin. Ensuite, on va avoir une partie proactivité. Le but, ça va être de fournir beaucoup de data, faire en sorte que les clients puissent se développer au maximum en se positionnant sur les bons produits, en étant capable de vendre dans tous les pays. Et finalement, une fois qu'on a ces deux parties-là, on se rend compte qu'il y a parfois quelques points bloquants, qu'il y a parfois des petites frictions sur des sujets. Et donc, ça nous amène au troisième pilier qui est la partie projet, qui va nous permettre en fait de monter des projets qui vont répondre aux problématiques des différents clients pour leur permettre de plus facilement vendre tel ou tel produit ou tout simplement réduire n'importe quelle friction qu'on va trouver.
Alors ça, c'est hyper intéressant et je pense que je vais encore recreuser sur chacun des trois aspects. Juste pour bien comprendre la structure en fait de l'équipe business, tu m'as dit qu'il y a des bizdev qui font uniquement du recrutement de nouveaux vendeurs et après, ça passe à la phase de run directement ou est-ce qu'il y a un onboarding entre les deux ?
Alors, il y a un onboarding entre les deux. Donc, les business developers, eux, vont aller prospecter, recruter des nouveaux marchands. Une fois que les marchands ont signé et sont en place, les business developers en fait vont s'occuper de son onboarding, donc lui expliquer le principe de back market, la manière de créer des annonces, la manière dont le site fonctionne. Et suite à cette période d'onboarding, le marchand est déjà familier au fonctionnement et l'idée c'est qu'on puisse nous, en tant qu'account manager, le développer, l'amener encore plus loin et faire en sorte qu'il grandisse au maximum sur la plateforme.
Ok, donc est-ce que chaque vendeur a un account manager ou ça dépend vraiment de son potentiel ?
Alors, chaque vendeur a un point de contact chez Backmarket. Ensuite, on va avoir une segmentation selon le type de vendeur, selon la zone géographique du vendeur. Et donc, il n'aura pas forcément le même accompagnement puisque ce ne sera pas forcément le même account manager avec lui. Donc, il y a vraiment des stratégies un peu différentes selon le profil.
Donc, ce que je comprends là, c'est par exemple si un vendeur est moins mature, entre guillemets, il va peut-être avoir affaire à un account manager qui sera peut-être différent à chaque fois, alors qu'un vendeur qui a déjà plus de potentiel de développement de ses ventes va être accompagné de manière plus rapprochée par un key account manager, toi par exemple.
Alors, en fait, un marchand qui va être vraiment au début de sa phase de développement, il va être accompagné par une équipe spécialisée qui va lui permettre justement de grandir au maximum. Et une fois qu'il aura atteint cette taille, il va passer dans les mains d'un account manager ou d'un key account manager. Et donc, c'est vraiment ça la petite subtilité. L'idée, c'est qu'il sera vraiment accompagné du début à la fin.
D'accord, ok, donc c'est vraiment une fois qu'il a fait, entre guillemets, ses preuves sur la plateforme.
Pour avoir un key account manager, oui, mais il a quand même son suivi du début à la fin.
Ok, ouais, très très clair. Et toi, en l'occurrence, tu t'occupes de quelle typologie de clients et c'est quoi ton périmètre ?
Alors, je m'occupe de clients basés en France qui sont tous assez différents. Il peut y avoir de gros acteurs du secteur IT, il peut y avoir des usines de reconditionnement, il peut y avoir des traders qui rachètent des produits de leasing et qui vont ensuite les revendre une fois qu'ils sont reconditionnés par des tiers. Voilà, c'est les trois types de clients que je vais avoir, sachant qu'ils sont tous basés un peu partout en France.
Ok, ouais, trop, trop bien. Et tu vas aller voir ces différents vendeurs? Je veux dire, tu te déplaces ou comment ça se passe, vos relations au quotidien?
Alors, au quotidien, c'est vrai que j'utilise énormément le mail pour tout ce qui va être support. Ensuite, on a beaucoup de points téléphoniques aussi pour aller encore plus loin dans la mise en place de plans d'action, dans les discussions de la stratégie du client, l'accompagnement. Et c'est vrai qu'on a aussi des déplacements. Donc, c'est toujours super intéressant de pouvoir visiter les clients parce que tu vois leur usine, tu vois leur process, c'est quelque chose de fascinant. Et donc, chaque trimestre, on se déplace afin de préparer, on va dire, les échéances à plus long terme. Donc, typiquement, les soldes, le Black Friday, le début de l'année. On va aller les visiter à chaque fois comme ça, en essayant de creuser au maximum et puis de mettre des plans d'action long terme en place ensemble.
Ah, ça me fait penser à l'interview que j'avais menée avec Albin, qui est account manager, maintenant qui est même passé senior chez Mano Mano, qui me disait que lui aussi, il mettait en place des opérations commerciales comme celles que tu viens de décrire. Donc, c'est intéressant d'impliquer comme ça tes clients et aussi d'animer, j'imagine, ton portefeuille.
Exactement. Ouais, c'est vrai que on a vraiment cet intérêt-là à être proche de nos clients, puisqu'ils nous apportent aussi énormément sur la connaissance du marché, sur des nouveaux fonctionnements. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir les visiter directement chez eux, parce qu'on en apprend toujours énormément.
Tu m'étonnes. Et c'est quoi alors du coup les produits qui marchent le mieux? Tu parlais de produits en leasing, c'est quoi les bons plans en ce moment?
Ah, donc les produits en leasing, c'est les produits que les marchands vont récupérer. Donc, tu vois, tu as de grosses sociétés qui vont louer un parc informatique, donc en leasing, et à la fin du contrat, ces produits vont retourner sur le marché. Donc, les reconditionneurs vont pouvoir les capter, les nettoyer, vider toutes les informations, les reconditionner, les remettre à neuf, en fait, et les remettre sur le marché. Et là, ce qui fonctionne super bien en ce moment, je pense que c'est aussi dû. À la fin du confinement, il y a de la trottinette électrique qui marche super bien, du MacBook, le secteur IT a vraiment explosé ces derniers temps, et le smartphone toujours, qui est le produit phare aussi chez nous.
Ah, j'avoue, j'aurais pas pensé à la trottinette électrique. Bah, écoute, j'irai faire un petit tour sur le site après. Je reviens aussi sur la partie proactivité. Du coup, ça consiste en quoi cette partie proactivité? Est-ce que tu peux peut-être nous reparler de tes KPI et puis concrètement, comment ça se traduit dans tes actions au quotidien?
Bien sûr. Donc cette partie proactivité, c'est vrai qu'elle va tourner autour des différents KPIs qu'on va avoir. Donc pour te les citer brièvement, on va avoir le churn, qui est faire en sorte que les marchands puissent vendre en continu, ne se retrouvent pas sur une période trop longue sans vente. On va avoir un KPI qui est le volume d'affaires réalisé par notre portefeuille. On va avoir un KPI qui est le cross-border, donc la capacité de nos marchands à vendre à l'international. On va avoir un KPI buyback. Je ne sais pas si tu connais cette partie-là, mais en gros, sur Back Market, tu peux acheter des produits, mais tu peux aussi revendre tes anciens produits inutilisés. Et donc, ils vont retourner sur le. Enfin, le marchand va acheter à un particulier un produit, le recevoir, le reconditionner et le remettre sur le circuit. Et donc, on a aussi cette partie-là sur laquelle on est objectivé. Et enfin, comme je te le disais au tout début, la gestion de projet. Est-ce qu'on a réussi à mener à bien nos projets? Quel est l'état d'avancement? Etc.
Ah oui, la partie projet fait partie des KPI. Alors, je pensais que c'était un petit plus, quoi, comme on voit souvent dans les boîtes, un petit projet
Ah non.
annexe, quoi. Mais là, ça fait vraiment partie.
Ouais, et c'est ça qui est super intéressant puisque ça bouge tout le temps, on peut vraiment être force de proposition et c'est la force du métier chez Back Market.
Ouais, mais trop hâte d'entendre un projet. Juste, je me permets, j'ai une question. Quand tu as un marchand qui a passé plusieurs mois, enfin, je sais pas, tu as parlé d'une période sans vente,
Ouais.
comment est-ce que tu vas le détecter et qu'est-ce que tu vas faire justement pour le réactiver?
Alors, on a des outils, hein, des alertes qui nous permettent de voir si un marchand s'est retrouvé sur une trop longue période sans vendre. Et c'est à partir d'un mois que ça devient, on va dire, problématique, puisque l'idée, c'est de permettre au marchand de vendre en continu pour qu'il puisse se développer toujours dans cette optique-là. Et généralement, on a, on va dire, trois raisons qui poussent un marchand à ne pas forcément pouvoir vendre. Parfois, ça va être qu'il a des prix trop élevés par rapport à la concurrence. Ça peut aussi être un problème de stock, donc une période sur laquelle il n'a pas réussi à se stocker et donc il n'a plus de produits en ligne. Ou alors, chez Back Market, c'est aussi le point le plus important, c'est la qualité. Donc, l'idée, c'est que le marchand puisse proposer ses produits au meilleur rapport qualité-prix. Et nous, justement, on l'accompagne énormément dans ses process qualité pour qu'il puisse toujours fournir un produit ultra quali au consommateur. Donc, ça, c'est vraiment les trois points qui peuvent jouer. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse repérer ça. Et si je te prends l'exemple d'un souci de stock, parfois, il y a des marchands qui n'ont pas forcément beaucoup de fournisseurs, qui peuvent se retrouver sans produit. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on puisse les accompagner, leur proposer des noms et qu'ils puissent enfin avoir les produits puis continuer à fonctionner sur la place de marché.
Ok, très clair. Et donc, pour leur donner tous ces indicateurs, j'imagine que c'est au moment des points trimestriels dont tu parlais tout à l'heure, que tu vas leur faire peut-être un état des lieux de leur qualité de service, de leur prix par rapport au marché, etc.
Alors, même plus souvent que ça, l'idée, c'est qu'on puisse suivre quand même au fil de l'eau tous ces indicateurs et, on va dire, être proactif au bon moment. L'idée, c'est qu'on puisse spotter ces potentiels blocages en amont et qu'on l'accompagne afin que ça n'arrive pas.
Et pour vous aider en termes d'indicateurs, vous regardez sur quoi, sur quel logiciel, quels sont les outils sur lesquels vous travaillez au quotidien?
Alors, on bosse sur Salesforce, qui est un outil très riche et qui nous permet de vraiment bien suivre et gérer notre relation avec les différents marchands.
Ok, ouais, bon, bah, sans faute alors.
C'est ça.
Top. Et ben du coup, ouais, je veux bien passer sur le troisième pilier dont tu nous as parlé en ce qui concerne ton périmètre, à savoir la partie projet. Je suis assez curieuse parce que moi, quand j'entends projet, je pense, tu sais, au 20% de chez Google qui nous permet, voilà, de faire mumuse à côté de son taf pour pas s'ennuyer, entre guillemets, et puis de temps en temps de développer un truc qui marche. Mais là, toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus stratégique en termes de réflexion et de mise en œuvre.
C'est vrai que là, la partie projet est vraiment inhérente à notre métier, puisqu'on va être en contact avec les marchands directement et suite aux échanges qu'on va avoir, on va parfois spotter des choses qu'on peut améliorer chez nous, que ce soit sur le site, dans nos process. Et par exemple, il y a quelque temps, un projet qui a eu énormément d'impact, c'est le fait de repenser la manière dont on allait présenter les produits, typiquement les MacBooks, sur notre site. Un MacBook, ça ne se vend pas comme un smartphone et donc on ne doit pas forcément le display de la même manière. Et ça, ça fait partie des projets qui sont nés comme ça suite à des discussions, suite à un souhait d'amélioration du taux de conversion, suite à un souhait d'amélioration du revenu sur une catégorie de produits. Et donc, on va pouvoir vraiment échanger entre les équipes afin de trouver des solutions. On va beaucoup consulter les marchands aussi, puisque c'est eux qui sont en première ligne. Et ça nous amène à des résultats souvent hyper intéressants, puisqu'on a une totale liberté dans nos actions. Et l'idée, bah, c'est qu'on puisse mettre en place des projets au fil de l'eau et qui fonctionnent. Et donc là, typiquement, je ne sais pas si tu as eu l'habitude d'aller sur Back Market il y a quelque temps, on va dire, même si tu y allais il y a un an, tu verras que les MacBooks ne sont pas displayés de la même manière. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus d'infos de display sur la page qui va donc permettre aux clients de faire le meilleur choix sans avoir à cliquer, rentrer sur les fiches produits et passer énormément de temps. Tout ça, c'est des petits sujets qui ont un impact énorme et qui sont donc représentatifs en fait des différents projets qu'on va pouvoir mettre en place au fil de l'eau.
Alors, il y a eu quoi comme, par exemple, comme adaptation en termes de Mac?
Alors, typiquement, on va avoir les Macs qui vont être présentés plutôt sous forme de lignes plutôt que des vignettes qui vont permettre d'avoir différents attributs de mis en avant. Et c'est les attributs sur lesquels souvent on va choisir son Mac. La RAM, le disque dur, le processeur, la taille d'écran. Donc ça, c'est des choses en fait qui vont apporter énormément au client puisqu'il va avoir les infos directement sous les yeux pour sélectionner son produit.
Et tu m'avais parlé aussi d'une histoire de clavier.
Ouais, typiquement, c'est vrai que l'idée, c'est de permettre aux marchands de vendre sur l'ensemble des pays sur lesquels on est ouvert. Et tu le sais, les claviers ne sont pas les mêmes, que ce soit au UK, en Espagne ou en France. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les marchands dans justement le changement de ces claviers afin de proposer les produits les plus adaptés à chaque marché. Et ça, typiquement, c'était un point bloquant pour beaucoup d'entre eux. Et donc, on a mis en place un projet qui est super intéressant, qui est du coup de trouver un fournisseur de claviers, les mettre en contact, par la suite de définir des règles sur les sites pour n'afficher que les claviers locaux, afin que les clients aient directement la meilleure offre. Et ensuite, l'idée, c'est de permettre, via un outil automatique, aux marchands de dupliquer leur catalogue facilement pour être positionnés sur toutes les fiches produits correspondantes à tous les pays dans lesquels ils sont ouverts.
Ok, et juste pour mon information personnelle, il y a d'autres claviers que AZERTY et QWERTY ou pas?
Ouais, bien sûr, tu vas avoir QWERTY UK, QWERTY US, tu vas avoir QWERTY espagnol, QWERTZ en Allemagne, AZERTY, tu as même des claviers du coup forcément thaïlandais, arabes, donc il y a suédois, donc il y a vraiment une multitude de claviers et c'est très important de pouvoir les proposer si tu veux vendre dans ces différents pays.
Et toi, tu gères toute cette coordination depuis la France.
C'est ça.
Ah, c'est hyper intéressant. Et je pense que tu dois être aussi en lien avec pas mal d'autres services. Du coup, ça doit être assez riche.
Ouais, clairement. C'est, je pense, aussi une des spécificités du métier de Key Account Manager, c'est que tu es le point de contact privilégié du client. Mais derrière, à toi de faire le nécessaire pour lui apporter une totale satisfaction, donc échanger avec toutes les équipes. Typiquement, marketing, catalogue, l'ensemble des équipes qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée aux marchands.
Et juste pour terminer sur les marchands, est-ce que tu peux me parler un peu d'eux ? Enfin, c'est quoi leur spécificité ? Est-ce qu'ils sont très connectés ? Est-ce qu'ils sont gros, petits ? Enfin, j'arrive pas trop à mettre un visage en fait derrière ce mot.
Alors, pour les marchands, il y a vraiment de tout. Il y a certains marchands qui sont ultra connectés et très en avance sur les différents systèmes d'automatisation qui vont développer très facilement des ponts entre les places de marché et eux. Et t'en as d'autres qui vont plutôt utiliser des moyens manuels pour créer leurs produits, gérer leurs prix et leurs stocks. Donc vraiment, il y a de tout. Et notre rôle aussi, c'est de les sensibiliser, leur apporter ces idées-là, leur montrer que ça existe et puis leur permettre de gagner du temps et d'être encore plus efficaces dans la gestion de leur place de marché.
Et tu sens qu'ils ont une motivation aussi en lien avec le développement durable ou c'est que du business ? Enfin, là, je rentre un peu dans la partie plus inspirationnelle, mais c'est pour savoir si ils vont être vendeurs sur tout type de plateforme ou s'ils ont un attachement particulier aux valeurs de back market.
Alors, c'est vrai que pour beaucoup, ils ont un attachement particulier à back market puisque c'est la première place de marché de produits reconditionnés. Donc, c'est vrai qu'on est 100% dédié à ça, donc les marchands sont très sensibles à ça, puisque c'est aussi ce qu'ils font, ils ne font que du reconditionné, et on sent qu'ils sont sensibles, puisqu'il y en a, par exemple, que j'ai pu visiter, qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne jusqu'au recyclage de la dernière pièce d'un produit qu'ils mettent au recyclage. Donc franchement, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Et ça, on peut le sentir dans les échanges qu'on a tous les jours. C'est vraiment agréable.
Ah, tu m'étonnes. Ça me fait penser aux cuisiniers qui essayent d'utiliser l'ensemble du produit, les fans de carottes, les épluchures et tout. Là, ça me fait un peu penser
c'est
à
ça. C'est ça.
Top. À présent, je te propose de passer à la partie retour d'expérience. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote gratinée ?
Alors, une anecdote gratinée, c'était il y a quelques temps déjà. Je bossais très bien avec un de mes marchands et il m'a proposé de venir à la circoncision de son fils. Donc j'ai trouvé ça à la fois super sympa et en même temps je savais pas vraiment si je pouvais accepter une telle chose. Mais du coup, via cette anecdote, je me suis rendu compte que à quel point en fait notre métier peut nous rapprocher de nos clients. Et j'ai trouvé ça du coup incroyable d'avoir une telle relation avec un client qui nous invite à des événements aussi personnels et lourds de sens.
Je suis carrément d'accord. Et à contrario, est-ce que tu pourrais nous raconter une solution compliquée ? L'idée, là, c'est de montrer que, voilà, à côté de ce quotidien de Key Account Manager, tous les jours ne sont pas tout roses et tu es aussi confronté à certaines difficultés.
Ouais, alors, même plutôt qu'une situation vraiment compliquée, je pense que j'aimerais plutôt parler d'un challenge, puisque c'est vrai que c'était au début du confinement, l'association Break Poverty, qui lutte contre la pauvreté, notamment celle entraînant le décrochage scolaire chez les jeunes, nous a contactés avec pour objectif de trouver 10 000 ordinateurs portables. Donc l'idée, c'était de réduire la fracture numérique et permettre aux jeunes étudiants démunis de poursuivre leurs cours à distance. Et c'est vrai que pendant cette période, les stocks étaient assez bas puisque les ventes étaient énormes. Et comme tu le sais, la situation a ralenti clairement les différents fournisseurs. Et donc, on se retrouvait avec beaucoup moins de produits que d'habitude sur le marché. Et c'est vrai que c'était une situation difficile dans le sens où le projet résonnait vraiment en nous. On avait vraiment envie d'aider. Et ça a été très compliqué de trouver autant de produits. Donc, on a vraiment bossé énormément. Et du coup, on a contacté l'ensemble des acteurs du secteur. À la fin du projet, 16 000 produits ont été trouvés pour l'association. Donc, je pense que j'ai tiré cette expérience que l'engagement finit toujours par payer, puisque je me suis investi au maximum. Et je pense que la force de notre métier de Key Account Manager, c'est aussi le relationnel, parce que sans ça, en fait, ça aurait été impossible d'atteindre cet objectif, surtout dans cette période.
Ok, ouais, j'aime bien cette anecdote, effectivement, elle est pleine de sens. Je vais me permettre de te titiller sur la partie situation compliquée, parce que là, c'est malgré tout une success story que tu t'as racontée. Quel est, on va dire, je sais pas, l'appel téléphonique de la mort que tu vas avoir de manière régulière dans ton métier et comment tu vas y faire face ?
Alors, c'est vrai que des situations compliquées, on en a quand même assez souvent. Une qui me touche particulièrement, ça va être un marchand qui va se retrouver dans des situations difficiles, qui ne va pas pouvoir avoir la trésorerie, qui se retrouve dans une situation où il est quasiment contraint de fermer. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir l'accompagner au mieux, en comprenant son besoin, en faisant, comme j'ai pu t'en parler au départ, le maximum pour trouver des fournisseurs, trouver des solutions, l'accompagner dans ses process, pour qu'il puisse finalement sortir la tête de l'eau. Donc je pense que ça fait partie des situations vraiment compliquées, puisque je pense qu'on a un impact assez limité sur ces situations-là d'entreprise, où parfois la santé de la boîte n'est pas au rendez-vous. Donc ça fait vraiment partie, je pense, des situations très compliquées auxquelles on peut faire face.
Et puis en plus, je pense que de ton côté, c'est hyper valorisant quand ça fonctionne. Tu te dis, ouais, d'habitude, je ne peux pas forcément influer sur la situation, comme tu disais, financière ou quoi, de mon client. Mais là, si tu as réussi à lui dénicher, grâce à ton répertoire de fournisseurs, peut-être un autre contact, et que ça lui permet de reprendre pied, là, tu as tout gagné, quoi, pour lui et pour toi.
C'est clair. C'est hyper gratifiant. Après, ça ne fonctionne pas toujours aussi simplement. Ça, c'est sûr.
Bien sûr. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire que tu peux avoir un impact même sur la santé de ton client. Ça, c'est trop bien. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne lorsque tu as démarré ce métier de Key Account Manager ?
Alors, je pense que c'est important d'être très curieux, humble et humble. Pourquoi ? Dans le sens où il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir. Je pense qu'il vaut mieux apporter une réponse exacte après coup, plutôt qu'en inventer une de peur de perdre la face lors d'une discussion avec un client. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on gagne la confiance des clients et qu'on les fidélise.
Ok, ouais, de ne pas se précipiter, mais au moins être crédible.
Exactement. Je pense que c'est vraiment un des conseils que j'aurais aimé qu'on m'apporte.
Comment, selon toi, va évoluer le métier de Key Account Manager dans les prochaines années ?
Alors, comment il va évoluer ? Je pense que on va avoir de plus en plus d'outils nous permettant d'accompagner au mieux nos clients, d'automatiser au maximum certaines choses qui peuvent nous prendre du temps aujourd'hui. Je pense que la data va continuer à jouer un rôle vraiment très important dans la relation qu'on a avec les clients. Et je pense que la satisfaction de ces derniers, en fait, prendra une part énorme à ce métier et je le sens de plus en plus.
Top. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandre. C'est très riche. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Du coup, je termine par ma question rituelle qui est quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux, selon toi, ton quotidien et pour quelles raisons ?
Alors, je pense que aujourd'hui, mon quotidien, c'est de faire le maximum pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc, au sein de Back Market, qui lutte justement en visant à donner une seconde vie aux produits électroniques. Donc, depuis le début, j'ai une chanson en tête avec cette obsolescence, c'est Obsolète d'MC Solar, parce que c'est aussi la chanson qui m'a fait découvrir ce mot quand j'étais jeune. Et je sais pas, c'est un mot que je trouve joli et donc je pense tout le temps à cette chanson quand je repense à la mission première de Back Market.
Top, super. Bah écoute, avec grand plaisir, je vais aller l'écouter. Et merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. C'était super sympa d'avoir participé au podcast. Et je te dis bonnes vacances et puis à très vite.
Merci, à toi aussi.
Ciao.
Salut.
Obsolète, mais stylée, la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette zig solité à little elite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette sa coquine rime avec top soleil.